Monsieur le ministre, vous avez, il y a maintenant quelques semaines ou quelques mois, je crois, fait une déclaration qui a pu laisser perplexe un certain nombre d'esprits français. J'aimerais que vous nous en disiez plus. Exactement, je sais que vous aimez bien provoquer l'intelligence et provoquer la liberté d'esprit. Alors, il semblerait que, d'après ce que vous avez dit, vous allez me corriger ou m'affirmer si c'est bien le cas, vous ayez été approché il y a un peu plus de 2 ans, avant que la guerre civile n'éclate en Syrie, par des services secrets britanniques et américains qui travaillaient à ce qu'une insurrection, non pas populaire, mais une insurrection de l'armée, une insurrection d'opposants à l'armée, une insurrection opposante au régime de Bachar al-Assad, puisse se fomenter, puisse se constituer. Dans quelles circonstances est-ce que ça s'est passé? Écoutez, et est-ce que vous confirmez?
Je le confirme.
Si vous pouvez vous approcher un peu de micro. Merci.
J'étais donc à Londres il y a à peu près 2 ans et demi pour des affaires purement civiles et commerciales.
Oui.
Et je me trouvais dans un ensemble de gens responsables de politique internationale, parmi lesquels se trouvaient mes interlocuteurs. Et l'un d'eux, dans plusieurs rencontres, déjeuner, dîner, est venu me dire, écoutez, nous serions intéressés par savoir ce que vous pensez de ce qui va se passer en Syrie. Écoutez volontiers, et je me suis retrouvé le lendemain avec un aéropage de pas plus de 5-6 personnes, mais des gens vraiment formés, intéressés, qui m'ont exposé que se préparait une offensive sur la Syrie pour changer le gouvernement. Alors il y avait là des militaires syriens en exil, et il y avait là des Anglais, un Américain qui était un peu comme ça, passe-partout, mais il faut se méfier des Américains qui passent partout,
ils sont faits pour
ça. L'interrogation, c'était pas simplement de me mettre au courant de ce qui allait se produire, et ce qui s'est produit effectivement, dont j'ai mesuré, je dois dire, la réalité quelques mois après, car sur place, je me suis dit, pourquoi il me parle de ça, la Syrie était calme, et j'ai compris que l'interrogation était, est-ce que si on vous présentait sur ce problème, vous prendriez une position? J'aurais fait remarquer que je n'étais plus aux affaires, Quai d'Orsay, que j'avais des successeurs depuis, et que c'était à eux de définir la politique de la France, qui était, faut dire, une réponse normande. Bon. Et je suis resté comme ça 2 jours, mais perplexe, en me demandant, mais pourquoi m'interroge-t-il? Et j'ai compris par la suite, quand j'ai vu se développer tout ça, la personne qui avait fait la petite réunion était venue me voir, ensuite à Paris, bon, puis ça n'a pas donné de suite. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça m'a mis en éveil pour toute la suite des événements. C'est-à-dire que ça a pris du relief pour moi quand j'ai vu se développer les choses. Je n'y pensais pas du tout le jour où on m'a fait cette proposition d'intervenir dans ce contexte.
Vous n'avez cessé d'y penser à mesure que le conflit s'enclenchait.
J'ai cessé d'y penser pendant quelques jours, quelques semaines, et j'y ai repensé avec beaucoup plus d'intensité lorsque j'ai vu se développer les choses de cette façon. Et je voudrais, si vous permettez, si j'ai quelques minutes,
bien sûr,
revenir sur ce qui constitue pour moi une étrangeté, c'est-à-dire la position de la France autour de ça. Vous avez très bien résumé la chronologie, et je suis toujours stupéfait de voir que le pays dont j'ai dirigé la diplomatie avec François Mitterrand pendant presque 10 ans, s'est porté au devant d'événements qui sont, faut pas le prendre pour des imbéciles, l'ABC de l'insurrection. Bon. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que je me permets de dire, puisque l'occasion n'est pas donnée, que c'est pas simplement les pouvoirs français officiels, c'est aussi toute la génération des bien-pensants, et notamment les médias. Quand je vois les articles du journal Le Monde, quand j'écoute la télévision, les interventions de toutes sortes dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire les experts comme ça qui poussent comme des champignons.
Et puisque vous avez écrit un livre avec Jacques Vergès dont je parlais tout à l'heure sur Bernard-Henri Lévy, on ne peut pas s'empêcher de penser à lui.
On ne peut pas, quand on évoque tous ces problèmes, je dis tous ces problèmes, je vais en dire un mot dans un instant, c'est-à-dire on ne peut pas oublier Bernard-Henri Lévy, il ne souhaite pas du reste qu'on l'oublie, il fait tout comme nous. ce qui est intéressant dans toute cette aventure, c'est de voir la continuité des choses. C'est très bien quand on fait de la politique. On est pris dans le moment à l'instant. Mais il est important de revoir le fil conducteur. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passe en Syrie, en pensant à ce qui s'est passé en Irak.
Oui, bien sûr.
À ce qui s'est passé en Libye.
En Serbie, même, en 99.
En bon. Mais surtout...
Et en Afghanistan.
Il est donc impensable, je veux dire, beaucoup étaient impensable de séparer et de vouloir traiter le problème de la Syrie en elle-même, intrinsèquement, sans penser à l'ensemble de la région et les problèmes qui se sont succédés. Et qui sont, vous le remarquerez, toujours les mêmes. Avec cette fois, l'intensité du côté de la diplomatie française qui n'existait pas toujours avant. Encore que, si on regarde bien les melons, c'est pas la position de M. Sarkozy n'est pas différente de celle de M. Hollande. Celle de M. Hollande est encore plus forte. Elle est plus forte et si je devais, pas faire d'ironie ici, mais enfin, si je devais essayer de qualifier cette diplomatie, je l'emprunterais plutôt à l'agriculture, vous allez comprendre. C'est plutôt la politique du bout en train. On le met devant, le bout en train, vous savez ce que c'est, tous les agriculteurs le savent et ceux qui nous écoutent le sauront. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui passe devant, qui excite la partenaire et que l'on retire au dernier moment. Et si vous, c'est pas agréable comme situation, mais je parle du bout en train. Mais donc, et vous remarquerez que la position de la France est exactement celle-ci depuis le début. Alors, je suis indigné, moi, par cette position. Je ne suis pas le seul. Je peux vous dire que les diplomates que je vois en Europe, en France, partout, même s'ils ne le disent pas, ils partagent une grande partie de ce que je vais dire.
Monsieur le ministre, est-ce qu'il est possible de vous poser une question sur un de vos amis politiques qui évolue bizarrement? Il se trouve qu'on a reçu ici, dans ce studio, Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, sait, après vous, qui a tenu des positions très hostiles à l'agression américaine occidentale contre l'Irak en 2003, qui était défavorable à ce que la France puisse s'engager là-bas, qui avait tenu un discours assez anti-impérialiste, assez anti-néoconservateur, etc. Puis qui, bizarrement, depuis quelques années, semble évoluer, à savoir qu'il a soutenu la guerre pour renverser Kadhafi en Libye. Il est actuellement favorable à la guerre en Syrie. Il est favorable au maintien de la France dans la structure otanienne.
Il a fait un rapport du reste.
Il a fait même un rapport, puis il y a eu une polémique avec Régis Debray qui était intéressante. Et ici même, je me suis un petit peu opposé à lui sur toutes ces questions-là, en lui posant quand même un certain nombre de questions référentielles et révérentielles à l'égard du ministre qu'il était. Mais néanmoins, il invoquait systématiquement le chapitre 7. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui parlait de la volonté des peuples à disposer d'eux-mêmes, est-ce que les peuples sont représentés par leurs élites, etc., etc., il invoquait le chapitre 7. Alors, est-ce que c'est par légalisme, est-ce que c'est par cynisme, ou est-ce que Hubert Védrine est devenu un bien-pensant, justement?
Écoutez, je ne dirais pas que c'est par cynisme. Soyons corrects, quand même avec nos successeurs.
Oui.
Je crois qu'il a évolué dans le temps pour des raisons qui le regardent, dont il m'a fait part, donc je n'en ferai pas usage publiquement,
oui,
mais qui tend à penser que son désir de revenir dans un contexte, le contexte actuel lui serait favorable dans cette hypothèse, de revenir au Quai d'Orsay l'oblige à se placer par rapport au bien-pensant.
Donc, ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement qui succéderait à celui de Jean-Marc Ayrault.
Par exemple, oui. Et il ne le cache pas, du reste. Il le dit, il l'écrit. Et c'est donc un petit peu la raison profonde que je donnerais de son attitude, qui est un peu décevante, c'est vrai. Quand j'ai vu ce rapport dont vous venez de parler sur la place de la France dans l'OTAN, c'est quand même un changement à 360 degrés. Enfin, je veux dire, et toute la tradition de la politique française depuis 1945 était basée là-dessus. On a assisté à beaucoup de tentatives. Mais venant de la part de quelqu'un qui se réclame gaulliste, comme...
Gaullo-mitterrandien, même. Contre l'atlantisme des élites mondialisées.
De révélation. J'étais ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand pendant 10 ans. Chaque fois qu'il y avait une réunion internationale, et notamment à l'ONU, où je faisais le discours tous les ans, avant de partir, François Mitterrand m'appelait régulièrement et me disait surtout, Roland, n'oubliez jamais que nous ne sommes pas dans le commandement intégré. Monsieur le Président, je ne l'ai pas oublié, la meilleure preuve, c'est que je le dis et je le répète. C'est ça. Et quand j'ai vu petit à petit ce glissement, parce que ça n'a pas commencé en un jour, mais ça s'est précipité, et ça a commencé déjà avec Jacques Chirac. Bon, quand j'ai vu que cette position qui avait été posée en principe par le général de Gaulle était bafouée par des gaullistes, c'était quand même un
bizarre,
peu préoccupant. Quand j'ai vu ensuite que M. Sarkozy, président de la République, a dit on va rejoindre le commandement intégré, ça a été fait sans consultation et ça a été fait à la va-vite, en quelque sorte. Et surtout quand j'ai vu arriver François Hollande, dans les 48 heures qui ont suivi son élection, cela a échappé à beaucoup de gens, dans les 48 heures qui ont suivi son élection, il a dit bien sûr, la France ne remettra jamais en question son appartenance au commandement intégré. Donc il y a eu ce glissement depuis des années qui était déjà très préoccupant, mais qui crée le cadre général de l'action maintenant de la France. Et il n'est pas surprenant que la conséquence soit celle-ci. Ce qui est plus surprenant, c'est le rôle particulier que joue la France, je répète tout à l'heure, le bout en train, dans ce contexte. Parce que ce n'est pas honorable en même temps. Je veux dire, si la France, on peut dire ce qu'on veut, la France prend la tête d'une croisade, parce que c'est une croisade, c'est sa responsabilité. Mais je veux dire, il ne faut pas le faire mesquinement. La France est plus grande que ceux qui aujourd'hui parlent en son nom, et il ne faut pas non plus habiller des choses comme ça. Quand
oui, mais justement, Dominique Jamais avait l'air de dire tout à l'heure qu'il avait un caractère un peu occident, sûr de lui et dominateur, alors que vous avez l'air de dire que c'est plutôt la rhétorique des droits de l'homme, bien que les deux ne soient pas forcément incompatibles.
C'est plus la rhétorique des droits de l'homme, du reste on en parle très peu, faire la campagne sur le thème Assad assassine son peuple, ça fait sourire tout le monde. Rappelez-vous, c'était le thème pour Kadhafi, c'était le thème pour l'Irak aussi.
Pour Saddam Hussein,
Saddam Hussein.
Discours victimaire.
Ouais. Bien sûr. Et c'est pas la première fois qu'on se mobilise. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est de voir le rapport des forces. Comment, par exemple, Jacques Chirac a-t-il fait pour ça? Il a commencé par marchander avec l'OTAN. La France peut-être rejoindre le commandement intégré. Ça a duré quelques semaines. Les Américains ont été attentifs à cette ouverture et ils ont dit, ben oui, pourquoi pas. Ils ont commencé à discuter. Et Chirac, très habilement, a dit, mais il faut qu'il y ait une récompense pour la France. Nous voulons le commandement, ce qui, après tout, se pouvait se concevoir. Quel commandement, ont dit les autres? Mais le commandement du flanc sud de l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire la Méditerranée. Et à ce moment-là, ce jour-là, dans l'heure qui a suivi, les Américains ont dit non. La Méditerranée n'est pas question. Pourquoi? Parce que c'est l'axe majeur qui conduit à la défense d'Israël s'il y avait un conflit de
la Mare Nostrum face à Israël.
Il faut très bien réfléchir à tout ça. C'est un plan d'ensemble. Il ne faut pas se cantonner. Quand on est comme ça, des données de première main qui n'ont pas de fondement. Donc ma position est très critique et de plus en plus critique sur cette affaire. Et je dis quelquefois, heureusement, qu'il y a eu la Russie. Et c'est là où la France a fait la première faute. Une faute d'analyse. Moi, je me souviens que depuis deux ans, depuis cet épisode de l'Angleterre que je vous ai raconté, je ne cesse de dire jamais, jamais, la Russie n'abandonnera la Syrie. Vous m'en riez. La grande diplomatie, c'était au contraire, on va mettre un coin entre la Syrie et les Russes. On va mettre un coin entre l'Iran. Rien n'a marché et tout a capoté et on voit bien aujourd'hui que c'est Poutine qui a gagné sur cette affaire, est revenu dans le concert international et qu'au fond c'était de combine avec Obama parce qu'Obama il voulait s'en sortir, il voulait s'en laver les mains, il voulait s'en sortir le plus vite possible. Un petit mot sur quand même l'habillage qui est fait. Nous avons dit tout à l'heure il y a une grande continuité, c'est vrai, on vient de le dire, on en a rajouté, j'ai dit moi-même mon mot là-dessus. Je voudrais vous rappeler quand même qu'il y a eu une propagande américaine il y a 4-5 ans quand le président des États-Unis, je vous rappelle lequel avait fait un grand discours en disant nous allons modeler le Proche-Orient et y amener la démocratie. C'est ça l'idée aussi, pour faire rêver un peu.
Et c'était l'idée du grand Proche-Orient.
Le grand Proche-Orient et la démocratie.
De George Bush.
Oui. Hein?
George Bush.
La démocratie. Bon, qu'est-ce qui se passe à partir de là? La mise en application. C'est la destruction d'un certain nombre de régimes. Comme par hasard, les régimes les plus autoritaires, ceux qui vitupéraient le plus contre Israël, contre la domination de l'Occident, etc. Et pour y établir la démocratie, quels sont les exemples que nous avons? L'Irak, c'est une pagaille sans nom, l'Irak. On y assassine tous les jours. Il n'y a plus de pouvoir central. La Libye n'avait plus de pouvoir central, on assassine les ambassadeurs à Benghazi, l'ambassadeur américain. Et Le prochain, ça devait être probablement l'Iran. C'est pas ce qui va se passer avec l'Iran. Ouais, ouais. Et ce sont de fins négociateurs, les Iraniens.
Est-ce que ça n'était pas d'ailleurs l'objectif d'un certain Occident de faire tomber le petit, la Syrie, pour faire tomber le grand, immédiatement derrière l'Iran?
Entre-temps, il fallait passer par la Syrie en raison de son alliance. De là, toute cette campagne sur on va mettre en
les armes de destruction massive, etc.
Oui. Mais il s'est trouvé que la Russie est intervenue. La Russie, c'est pas le Liechtenstein. Hein. C'est quand même, c'est quelque chose. Qui compte.
Et la Chine.
Elle suit la Russie. Mais la Russie, c'est très déterminée. Regardez le nombre de bateaux qui ont circulé dans la Méditerranée orientale à la suite de la déclaration de Poutine. On prend la mesure des choses. Donc, la perspective américaine de Bush, comme disait tout à l'heure notre ami, en réalité, qu'est-ce que c'est devenu? C'est pas devenu des démocraties, c'est devenu des pays où il n'y a pas gagné. Mais ils s'en moquent. Mais je vais vous dire pourquoi ils s'en moquent. Parce qu'on préfère un État centralisé, fort, dont on présume qu'il a des armes, etc. Qu'est-ce qu'on préfère à ça? Une pagaille dans laquelle on pourra jouer, faire nommer tel chef local, installer des féodalités de toutes sortes qui permettront de jouer entre les gens et de maintenir un statu quo dans cette région.
Cela dit, monsieur le ministre, est-ce que les peuples, en général, n'aspirent pas, il est toujours difficile de parler à la place des peuples, bien entendu, mais est-ce que les peuples n'aspirent pas à se dégager à la fois de la tutelle d'un État centralisé, administratif, bureaucratique, autoritaire, et aussi d'un État corrompu où le marché régulerait tous les comportements sociaux et serait indexé sur l'Occident?
Je vais vous répondre, je pense un peu de normand. C'est en même temps difficile à nous d'aller nous substituer.
Bien sûr.
Ils choisissent le régime qu'ils veulent. Ils veulent le régime autoritaire. Mais ils prennent le régime autoritaire. C'est pas aller à nous de leur dire, écoutez, celui-là il n'est pas bon, vous l'enlevez, vous en mettez un autre.
Alors je vais vous poser une question, évidemment, parce que c'est la fin de cette émission et qu'il y a encore quelques questions d'auditeurs à vous poser. Comment vous envisagez l'avenir? Comment vous pensez que la situation va évoluer? Est-ce que les discours de ce soir vous incitent à penser que nous nous dirigeons vers le pire ou vers le meilleur? Et à votre avis, sans que vous lisiez dans le marc de café, est-ce qu'à votre avis, nous nous acheminons vers une situation qui serait davantage positive que celle que nous avions il y a à peu près un mois?
Je pense que nous allons avoir un répit, parce que la Russie est là. Je voulais dire que je suis russophile, un peu parce que je considère que c'est le grand pays qui a gagné la guerre. Bon, il n'y a pas que les Américains. Il faut quand même reconnaître les choses, mais de toute façon, la Russie est là, et bien là, il restera. Donc il y aura une conférence Genève 2 qui prendra du temps, la Russie jouera son jeu, et il y aura une sorte d'équilibre qui va se faire. Mais ne croyez pas que ce soit terminé pour autant. Je veux dire, les forces qui ont mis en place tout ce système pour enlever des régimes qui effraient tout le monde parce qu'ils sont dictateurs, et notamment, je l'ai dit tout à l'heure dans une incidente, avec le retrait qui va avoir lieu cette année de toutes les troupes américaines qui sont des mercenaires en Afghanistan, et on va les mettre où ils vont aller? Ils vont se répandre en Afrique, et c'est une vraie question qui va se poser. Donc oui, il va y avoir un répit, mais il n'y aura pas la paix totale.
Ça c'est-à-dire que les tumultes vont persister
et on risque les intrigues.
On risque d'assister à un chaos organisé, si voilà. Je veux dire.
Mais maîtrisé.
Ou désorganisé, d'ailleurs.
Mais maîtrisé.
Maîtrisé.
Le but, c'est pas d'établir la démocratie, comme ils voulaient. C'est d'établir des régimes faibles entre lesquels ils pourront jouer.